Au-delà des apparences.
Au-delà des apparences.
Une émission proposée par Sandrine Merck.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est votre dernier numéro de ces quatre émissions autour donc de Lien pour l'autre. Chers auditeurs, c'est à vous que s'adresse cette bande de copains ou qui sont devenus copains, qui étaient tous voisins de lotissement, je le rappelle, ils sont dans ce studio autour de moi. Vous vous rappelez les précédents épisodes, ils sont donc voisins devenus amis, à la retraite, tous d'anciens ingénieurs ou chercheurs ou professeurs. Ils se sentent très concernés par ce qui se passe autour d'eux, mieux, ils sentent qu'ils peuvent agir, et encore mieux, ils se lancent et créent une association donc, qui s'appelle Lien pour l'autre, qui propose une maison, un appartement, une colocation à des personnes aux profils très divers qui, en se regroupant, peuvent transformer leur précarité individuelle en force collective. En fait, ils comblent un petit peu leur précarité et vont trouver, si tout ça fonctionne, un équilibre social et économique. En tout cas, ça, c'est la vision, c'est le rêve, c'est le défi. Pour être très concrète, très matérialiste et très rassurant quelque part, quelles sont vos garanties de non-loyer impayé, de non-disruptif locataire, etc., etc.
Alors, c'est peut-être le bailleur qui va prendre la parole.
Allez,
là, parce que...
c'est le plus crédible de toute la troupe.
D'abord, un loyer impayé. Habituellement, un bailleur est inquiet d'un loyer impayé parce que quand quelqu'un commence à pas payer son loyer, c'est souvent plusieurs loyers qui suivent et puis on ne sait pas comment s'en sortir. Là, si c'est une colocation, mettons à 3 ou 4 personnes de profils différents, ils vont a priori pas se mettre d'accord pour ne pas payer leur loyer. Et donc le loyer impayé est déjà du quart de la valeur, du tiers ou du quart de la valeur du loyer, en gros, hein, parce que les loyers ne sont pas forcément exactement les mêmes pour tous. Donc ça limite beaucoup le risque et en plus, dans une colocation, ils s'entendent, ils savent des choses. Quand il y en a un qui ne paye pas, ils savent que ça va un peu déstabiliser le reste de la colocation. Et donc, ou ils vont vouloir l'aider d'une autre façon, ou il peut demander aussi, celui qui a du mal à payer son loyer, il peut demander de l'aide aux autres puisqu'ils vivent ensemble. Tout ça, ça forme... pas une garantie forte, mais ça diminue le niveau de risque, ce qui n'est pas si négligeable que ça, et je pense que le bailleur est intéressé par cet aspect-là des choses. Encore faut-il bien lui expliquer.
Après, un autre aspect des choses, c'est que...
Le trésorier.
Le trésorier. Le bailleur va signer un contrat, un bail d'une certaine forme, en tout cas un contrat avec l'association. Aussi bien quand il y aura un impayé que quand on va avoir un membre de la cellule de vie qui va changer, le bailleur n'en verra pas l'impact. C'est-à-dire que c'est l'association qui en fait son affaire. Alors... l'association a tout intérêt, ça sera notre gros travail, à s'assurer que les problèmes n'arrivent pas. Et de toute façon, on a quelqu'un qui va suivre la cellule. Ça, il ne s'agit pas de mettre des membres dans un appartement, dans une maison, et puis d'avoir des nouvelles d'eux que quand il y en a un qui a l'intention de partir, comme ça se fait dans une location normalement. Là, on a un suivi régulier.
Un coordinateur social,
c'est ça ?
Coordinateur de vie, je crois. C'est ça,
donc on peut en parler un petit peu.
Oui.
Qui va suivre. Alors, on va pas avoir un public à gros problème, hein, comme on va loger des gens qui sont stabilisés. Néanmoins, une colocation avec des profils différents, avec des missions différentes. Hein, on a parlé dans l'autre émission de la charte. Hein, ben, il faut s'assurer que ça fonctionne. Il faut pas arriver quand ce sera trop tard et qu'il y aura eu un problème. Que ce soit des problèmes purement financier, mais dont on parle, mais il peut y avoir plein d'autres problèmes. Hein. Ça, on va l'accompagner pour anticiper toutes les difficultés. Donc alors ça, là, c'est une garantie importante aussi.
Là, vous êtes sur une étape maison témoin. Il ne faut pas que ça rate.
C'est ça.
Les gens vont rentrer quand ? À quel moment ? Là, on vous attrape vraiment dans le projet. Parce qu'en fait, ce qui m'a énormément intéressé, et vous allez nous l'expliquer aussi, c'est comment on passe de l'inaction, entre guillemets, du citoyen qui se désole à l'action. Voilà, c'est ça qui vous expliquera ensuite. Mais là, concrètement, quand est-ce que les gens vont arriver ? À quel moment on se reverra, on se réentendra, on se dira, tiens, ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné ? Vous ne devez pas vous louper là, maintenant.
Alors oui, bien sûr, on a bien conscience de ça, mais honnêtement, comme on n'est pas pris par un calendrier, c'est juste de la sérénité, et à chaque fois qu'on a une étape supplémentaire qui arrive, ben finalement, c'est un petit bonheur supplémentaire qui va vers le but qu'on s'est mis.
Donc, mais le bonheur supplémentaire, là, c'était le bailleur avec sa maison.
Absolument.
Et ensuite, vous êtes donc, vous comptiez quand même commencer en janvier.
En février, oui.
Février. Parce que,
oui, on pensait fin janvier, mais fin janvier arrive très vite. Oui. Il y a encore quelques petits travaux à faire dans la maison. Il y a encore des petits trucs. Je ne rentre pas dans les détails, ce n'est pas intéressant pour les auditeurs. Mais allez, on peut penser que fin février est plus réaliste. Disons qu'on espérerait mi-février.
Voilà. Parce qu'on va, après l'étape de la maison, une fois qu'on est sûr donc de... du logement, on va passer à l'étape de la candidature. Et donc, on est en partenariat avec l'agence intercalaire. Pourquoi ? Parce que ce qu'on n'a pas précisé dans les émissions précédentes, c'est qu'on suit des formations en même temps. C'est-à-dire qu'on a un suivi par Toulouse Métropole. Donc on a suivi ce qu'on appelle le parcours adresse qui nous aide à monter notre projet sur le plan pratique en nous aidant à nous poser les bonnes questions donc avec cette aide là on professionnalise notre projet aussi parce que si on veut essaimer un jour le concept qui marchera, ben on va pas rester à trois, on va avoir des opportunités pour embaucher, créer des postes et finalement c'est ce que nous demande c'est pour ça que Toulouse Métropole et le parcours adresse sont intéressés à notre projet.
Alors moi ce que je trouve super intéressant évidemment c'est que vous avez surmonté la petite marche trop compliquée, c'est-à-dire c'est trop compliqué, on fait pas. Ça, je trouve que c'est toujours très, très intéressant pour n'importe quel citoyen d'entendre des gens qui s'y lancent, parce que c'est souvent un petit peu ce qui tue l'initiative personnelle. Hein. C'est trop compliqué, ça provoque un peu la quoi bon, qui provoque, lui, un peu le découragement citoyen, la culpabilité, l'impuissance, bref, la fermeture. Là, vous êtes plutôt dans la méga ouverture, je dirais, et un peu la preuve du contraire. Donc ça, c'est quand même... complètement passionnant. Qu'est-ce que vous demanderiez aux auditeurs, qu'est-ce que vous leur proposeriez à nos auditeurs qui nous écoutent?
Ben, de nous rejoindre.
En tant que bailleur?
En tant que potentielle personne qui peut nous aider à amener des idées. Alors évidemment, actuellement, on est dans une phase entre la théorie et la pratique, on passe à la pratique, mais on a encore besoin, par exemple, de mécénat de compétences. On a énormément besoin de sur les questions juridiques, par exemple, sur des spécialistes qui des assurances pour finalement monter un modèle qui soit parce que notre projet à nous, une fois qu'on a répondu à toutes nos questions un petit peu tordues, compliquées et qu'on s'est fait des nœuds au cerveau au départ, elle est facile à dupliquer. Finalement, c'est mettre quatre personnes qui ont envie de vivre ensemble, parce que cette charte de vie, on ne l'a pas précisé, elle est faite pour des gens, mais par les personnes de la cellule. Eux, ils participent à l'élaboration de leur cellule de vie et à leur projet de vie. Et donc, finalement, c'est plutôt simple comme idée au départ. Mais par contre, c'est la mise en œuvre qui est assez compliquée à mener à bien.
Après, c'est vrai que sinon, les auditeurs, il y en a qui ont... immédiatement ou à moyen terme des logements qui vont se libérer et qui sont libres pour pouvoir les mettre en location et qui ont envie de tenter l'aventure avec nous. On a bien compris qu'ils allaient avoir comme interface l'un pour l'autre, point, avec un contrat.
Un contrat de bail presque habituel.
Oui, voilà.
C'est le bailleur qui parle.
C'est pas eux qui vont avoir à supporter l'animation, le suivi, etc. de cette cellule. S'ils ont envie de s'y impliquer, bien sûr, hein, rien n'empêchera un bailleur d'être passionné et adhérent de l'association et actif dans l'association aussi, hein, mais pourquoi pas. Mais c'est encore une fois ce qu'on cherche, nous, c'est à toucher un bailleur lambda et à dire bah, votre logement, on peut construire ce type de réponse sociale dedans, alors qu'on n'est pas dans du logement social.
Pourtant. Alors,
en ce sens-là, je trouve que ce qu'on peut demander aux auditeurs à l'heure actuelle, c'est premièrement de ne pas oublier que cette démarche-là existe, de peut-être la trouver intéressante, j'espère. Si jamais, à un moment ou l'autre, soit parce qu'ils sont déjà bailleurs, mais qu'ils ont un locataire présent, mais ils deviennent potentiels bailleurs d'un logement actuellement vide, départ du locataire ou autre, de penser immédiatement à cette solution-là. Parce que il faut l'avoir, il faut être faut vraiment pas oublier ça, parce que sinon, comme le changement de locataire se fait en un mois, sur Toulouse en particulier...
On repart pour 3 ans.
On repart pour plus que trois ans. Parce que vous ne pouvez pas mettre, et c'est normal, un locataire dehors pour remplacer par un autre locataire.
Alors, pour terminer cette émission, est-ce que vous pouvez nous dire très rapidement chacun ce que ça vous apporte, ça, finalement? Parce que c'est un peu du qui l'eût cru, quoi, finalement. Qui l'eût cru? Est-ce que ça vous apporte du bonheur? Qu'est-ce que ça vous apporte? Vous avez des vies bien remplies, vous avez été investi de responsabilités, vous avez gagné votre vie, vous connaissez la vie aussi, très clairement. Qu'est-ce que ça vous apporte, ça? Parce que ça aussi, ça peut donner envie, non?
Oui, je dirais une certaine ouverture aux autres. Enfin, l'ouverture, il faut qu'elle existe préalablement. Mais une ouverture vécue...
Concrète.
Ça, c'est clair. Une certaine satisfaction personnelle aussi, je pense.
Bon. Moi, j'ai toujours voulu être actif dans la société, au sens où je trouve que la société n'est pas satisfaisante et il faut essayer de la changer. Donc, apparemment, on veut changer le monde, d'accord, mais enfin bon. Et je crois beaucoup à l'innovation pour ça. C'est pas pour rien que j'étais chercheur avant. L'innovation sociale, c'est important. Donc, ce qui me plaît dans ce projet, c'est que, bien sûr, on peut être actif en s'impliquant dans des choses qui existent, hein, et puis c'est important de le faire, de continuer à le faire, mais là, en plus, on innove. Et moi, je trouve ça intéressant. Si on innove et qu'en plus ça marche, alors là, c'est le grand bonheur, quoi.
C'est transformer le combien ça coûte en combien ça rapporte.
Oui.
Oui, c'est simplement pour moi, c'est le fait de s'investir dans un engagement, parce qu'il y a des gens qui, quand ils débutent la vie, ont des conditions difficiles, ou alors ils ont des faux pas dans la vie, et c'est si facile de s'enfoncer et de sombrer. Et quand on est sur ce point-là où on commence à sombrer et qu'on voit une solution qui finalement va nous aider à rebondir de suite, il ne faut pas s'enfoncer de suite, si on a de l'aide autour de soi, c'est important de ne pas sombrer rapidement et d'avoir une solution comme ça, avec un accompagnement
humain. C'est ce que j'appelle la théorie du coup de pouce. Et au final, puisque nous débordons largement déjà notre émission...
Mais on a l'opportunité, la
chance. Le président.
On a l'opportunité, la chance de pouvoir mener à bien de A à Z une idée finalement qui est singulière. Et donc c'est jouissif tous les jours, quoi. Puisqu'en fait, même le cheminement, même les difficultés, à chaque fois qu'on les surmonte, on se réunit et puis on se dit, tiens, on a avancé. Donc bon, le chemin, comme on dit, est aussi important que le but. Par contre, on perd pas le cap de vue et on se dit que le but va être très très intéressant, très sympathique au niveau de l'idée.
Tout comme la façon d'aborder et de résoudre un défi est quelque chose de passionnant, et ça, c'est aussi le chercheur qui vous parle.
Merci à tous, c'était absolument passionnant, et vous retrouverez de toute façon, vous les auditeurs, cette émission l'une après l'autre et dans son ensemble, si vous souhaitez l'écouter dans son ensemble, grâce au podcast. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.